Il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie qui me guide. Il n'y a pas de scénario préétabli. Il n'y a pas d'idée avancée avant. On suit la personne. On suit la personne. Et petit à petit, comme chacun a une histoire, elle apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît. Et c'est le jour où elle apparaît vraiment dans quelques gestes, qui échappent évidemment au modèle que vous filmez, hein, que vous savez que vous avez, et vous êtes entré un peu dans la chair de la nature humaine, et que vous ne racontez pas d'histoire au spectateur.
Bonsoir à tous et bienvenue sur La Dernière Piste pour une émission qui sera placée sous le signe du dialogue entre différentes formes d'art et différents artistes, en l'occurrence entre le cinéma et la musique. Car ce soir, on se penche sur un certain pan du cinéma documentaire qui est celui du portrait, et en l'occurrence le portrait d'artistes musicaux singuliers avec deux films dont l'une des forces principales est de parvenir à transfigurer les personnages bien réels en de véritables personnages de cinéma qui pourraient tout à fait appartenir à la fiction et ainsi des films qui brouillent les pistes entre le réel et l'imaginaire. Ces deux cinéastes, ce sont Nicolas Drolk avec This Film Should Not Exist et Marie Lozier avec Félix in Wonderland. Le premier personnage au cœur du premier film dont on va parler et que je viens donc de citer s'appelle Ben Wallers. C'est le chanteur d'un groupe underground des années 90 qui s'appelle les Country Teasers, que personnellement je ne connaissais pas du tout avant d'entendre parler de son film dans un festival. Nicolas Drolk est un jeune cinéaste trentenaire ayant signé plusieurs documentaires, dont un sur l'écrivain Serge Livrosé. C'est donc un cinéaste qui aime les figures libres, un peu marginales, lui-même étant complètement indépendant avec sa structure, les films Furax, qui est dans un pur esprit punk et do it yourself. Le titre du documentaire, This Film Should Not Exist, est aussi ironique que la musique des Country Teasers et des paroles de Ben Wallers. En évitant les poncifs du documentaire musical classique, traditionnel, bien souvent lisse et poli, il livre sa vision personnelle de celui qui fut la tête pensante de ce groupe en réussissant parfaitement à s'approprier des images qui ne sont pas les siennes, car il s'agit de Rush tourné par deux amateurs de la musique du groupe, Gisela Albertini et Massimo Scocca, deux amateurs du groupe donc, qui ont filmé ce groupe lors d'une tournée commune en 1995, à un moment où Nicolas Drolk ne faisait pas encore du cinéma. Ce sont donc des images du passé, d'un certain passé, qui se confrontent ainsi avec les images du présent, dont Nicolas Drolk a parfaitement réussi à tirer un portrait qui fait ressortir plusieurs facettes de Ben Wallers. L'interview que l'on va donc écouter dans quelques instants a lieu il y a quelques mois par une après-midi étouffante de chaleur, donc c'était encore cet été, une après-midi caniculaire, et c'était à Toulouse, au bord de la Garonne, que l'on s'est posé pour discuter de ce film, mais aussi, et on va d'abord commencer par ça, de ses années de formation.
J'ai pas appris grand-chose dans l'école de cinéma dans laquelle j'étais, et c'était très conservateur, très crétin à mon avis, c'est-à-dire qu'on était chacun dans une section, alors moi j'étais en réal, alors... Donc j'avais pas le droit, j'avais rien à foutre avec des caméras, c'était pas mon problème parce que je devais travailler avec les gens de la section image qui eux s'occupaient de l'image. Je devais pas non plus me préoccuper du son parce qu'il y avait des ingénieurs du son.
Très cloisonné. Ouais,
et complètement cloisonné et complètement crétin quoi. Je veux dire, un écrivain, il apprend la première chose, il apprend à servir d'une machine à écrire ou d'un stylo. Un cinéaste, il apprend à servir d'une caméra. Sinon, il a l'air d'un con parce qu'après, c'est le problème de beaucoup de réalisateurs. Il va demander des choses à des techniciens qui n'ont aucun sens, puisqu'il n'a pas les connaissances de la technique. Donc l'idée, c'était d'exploser tout ça.
Ouais, et puis en plus, comme ça, ça te permet d'explorer justement tous les différents corps de métier. Et moi, je pense que pour être réalisateur, il faut au moins s'y connaître, pas être spécialiste dans tout, mais parce que c'est impossible, mais s'y connaître au moins dans chaque, un minimum dans chaque rôle, quoi.
Ouais, pour pouvoir... j'ai poussé ça vraiment, enfin c'est pas pour m'envoyer des coups de pied ou me la ronfler, mais parce que c'était par nécessité, j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire qu'en débarquant là-dedans, avec mes premiers films, j'ai été contraint et forcé de devenir caméraman, ingénieur du son, réalisateur, ce que tu veux, monteur évidemment, parce que j'ai monté tous mes films, j'ai jamais travaillé qu'un monteur, et ensuite même étalonneur, traducteur, parce que c'est moi qui ai traduit les films, apprendre à faire le sous-titrage, c'est moi qui ai fait le sous-titrage, apprendre le graphisme, c'est moi qui fais les pochettes.
Je pense aussi à Factory à Manchester avec tous les groupes, Joy Division, tout ça. Aussi c'est pareil, c'est ce côté tout, voilà, enfin ce côté artisanal.
Exactement, c'est tout contrôlé de A à Z pour ne jamais être déçu à une étape en disant bah ouais le film il est bien mais ça a été confié, la fabrication du DVD a été confiée à un graphisme à la con. Et toute ma vie je me tapais ce visuel pourri qui est associé avec le film et c'est dommage quoi. D'années à l'époque où j'avais découvert un label qui est toujours très 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 important pour moi et pour mes copains qui s'appelle Crypt Record. Ouais. Crypt Record, c'est le label de Tim Warren, donc qu'on voit dans le film. Mmh. Et Tim Warren, c'est celui qui a sillonné les États-Unis au milieu des années 80 à la recherche de 45 tours de groupes de garage punk obscurs et qui a sorti cette série. C'était le début du label Back from the Grave qui est devenu culte et qui pour nous était les meilleurs compiles de garage 60s qu'on pouvait trouver. Chez le disquaire à Nancy quoi. Donc moi j'étais biberonné à ça et après avoir sorti ces compiles qui étaient donc des reissues, des trucs des années 60, assez naturellement au bout d'un moment Tim Warren s'est mis à sortir des groupes contemporains, des groupes qui jouaient et qui tournaient, et il s'est mis à les faire tourner. Et il s'est mis à les faire tourner pourquoi? Parce qu'il signait beaucoup de groupes américains, mais lui habitait en Europe, donc il avait les contacts à cette époque, fax et compagnie, numéro de téléphone puisqu'il n'y avait pas internet, pour organiser des tournées en Europe. Et dans ces groupes, il y a des groupes qui étaient hyper importants pour moi quand j'étais plus jeune, dont un qui s'appelle les Oblivion. C'est un groupe de Memphis, trio garage punk, ouais. Grosse des boîtes. Je connaissais très bien les Oblivion et d'autres groupes de chez Crip, les Ronchens, John Spencer sortait ses disques là-bas, les Gorries, un des meilleurs groupes de garage de Détroit que j'adore. Et donc en cheminant dans le catalogue de Crip, un jour, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Country Teasers et qui était le groupe, clairement, le plus outsider du label. C'est-à-dire le moins gendré dans un truc, garage, ouais. Graisseux, très biker, très... les groupes, c'était les Devil Dogs, les Lazy Cowgirls et compagnie. Et là-dessus arrive un groupe écossais avec un freluqué qui ressemble à un trisomique avec des lunettes géantes, ouais, un chapeau, et qui dénotait complètement de tout le reste du catalogue. Et en fait, c'est
aussi,
voilà, avec des influences country, etc., qui m'intéressaient. Ouais. Et je suis devenu complètement fasciné par ce groupe. Et ça fait vraiment partie des rares groupes que j'ai découvert en écoutant, c'est-à-dire en me forçant au début, en me disant ouais, c'est dissonant, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Ouais. Et plus j'écoutais, plus ce truc dissonant, bizarre, qui allait pas devenait une espèce de plus-value, quoi, qui les faisait passer au-dessus de tous les autres. C'était en décembre 2017, je me souviens plus, décembre 2018, un groupe italien de Turin qui s'appelle Lame, L-A-M-E, qui veut dire ennuyeux, pénible en anglais, traduction du mot. Et Lame, c'est un trio, et dans le trio, il y a un type qui s'appelle Massimo Scocca, qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a une cinquantaine d'années. Et en fait, Massimo, il était très 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 proche de Crypt Record à cette époque-là, avec sa compagne, sa concubine, Gisella Albertini. Et donc, je fais jouer son groupe chez moi. Et comme avec tous les groupes que j'ai fait jouer, ils viennent dormir chez moi après. Et Massimo, il voit les disques des Country Teasers plutôt dans le haut de la pile de mes favoris, quoi, dans mon salon. Et il voit surtout l'affiche d'un concert des Country Teasers à Nancy en 1995. Alors, il me dit, ah, t'y étais et tout. Ben, j'ai dit, non, moi j'avais 7 ans, j'y étais pas. Mais j'ai des copains plus âgés qui étaient. Concert de légende à Nancy, quoi. Et là, il m'explique, il me dit, ben, moi, avec ma compagne Gisela, en 1995, on a suivi cette tournée avec une caméra. Et on a 4 cassettes au format vidéo 8 de 2 heures chacune. Donc on a 8 heures de rush de cette tournée espacée sur une huitaine de dates, essentiellement en Allemagne, et une en Italie et une en France. Et on essaye de faire un film avec ça depuis 25 ans, mais on n'y arrive pas trop parce que nous, on est musiciens, on n'est pas cinéaste.
C'est ça.
Et lui savait que moi, j'avais fait des documentaires déjà, des longs métrages, 3. Donc il m'a dit, est-ce que ça te brancherait de rejoindre le truc et qu'on essaye de le faire ensemble? Et j'ai dit, oui, bien sûr, ça m'enthousiasme énormément. Envoyez-moi les bandes, je serais très curieux de les voir. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et en fait, eux avaient déjà tourné, si tu veux, des interviews. En gros, la première partie du film, quoi, l'interview, ils étaient restés en contact avec Ben, donc le leader des Country Teasers, avec Simon, le bassiste, et avec Tim Warren, qu'ils étaient interviewés à Berlin. Et ils avaient chopé les Oblivians, qui étaient en tournée avec les Country Teasers qui sont dans le film, lors d'un concert à Turin, il y a quelques années. Donc moi, je me suis immiscé au projet, pas en tant qu'exécutant monteur, mais j'ai dit, bon, si on le fait ensemble. Et à ce moment-là, moi, je mets mes idées, éventuellement, on retourne des trucs, et on le signe à 3. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Tout de suite, je me suis dit, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le film de fans. Parce que Gisela et Massimo, c'est des fans. Et faire un film sur les Country Teasers, c'est génial. Faire un film sur les Country Teasers en tournée en 1995 pendant une heure et demie, ça va peut-être être long au bout d'un moment. Ouais. Donc j'ai procédé de la manière suivante, c'est-à-dire que je me suis demandé quelle était l'histoire qui était la plus intéressante à raconter autour de ça. Et en fait, l'histoire la plus intéressante à raconter autour de ça, c'est faire un portrait de Ben Wallers, qui est le leader du groupe, en partant de cette tournée-là. Pourquoi c'est le plus intéressant? Parce que les Country Teasers, c'est un de ces groupes qui ont la particularité d'être un groupe très directif, où il y a un mec, Ben, qui compose les morceaux, qui les enregistre, qui les écrit, et qui ensuite en répète, débarque avec ses cassettes et dit, voilà, le morceau, c'est ça. Donc maintenant, vous le jouez. Vous mettez une base, vous mettez une batterie, mais c'est moi qui décide.
C'est vraiment lui qui est au centre du tout.
C'est moi qui décide. Et donc, c'est de ce mec-là qu'il fallait faire le portrait. Et comme les Country Teasers n'existent plus tellement, ou de manière informelle, ou sous des line-up différents depuis une quinzaine d'années maintenant, même une vingtaine d'années, depuis les années 2000, mais que Ben continue sa carrière solo, entre guillemets, sa carrière avec beaucoup de guillemets, sous le nom de The Rebel, il fallait filmer un concert de The Rebel, il fallait introduire ça, et introduire un troisième groupe après les Country Teasers et l'Oblivion, ce qui est Dat Bligou, qui est le groupe, l'influence majeure de Ben, quoi. Donc essayer de comprendre quelle est l'histoire la plus intéressante à raconter autour de ce groupe, et ensuite ce dont on a besoin pour la raconter, en plus que ce qu'on a déjà, c'est-à-dire les archives de 95. Et moi, c'est là où je me suis initié en disant, bah, on va aller à Paris, Ben joue un festival en septembre 2019 au Frisson Acidulé, on va y aller, on va le filmer, on va le réinterviewer après le concert, on va reprendre les éléments narratifs qui nous manquent, et on va étoffer comme ça le film.
Yeah.
il y avait. Moi, ça m'intéressait de parler de des films, les films Furax. Donc, t'as comment on appelle ça exactement, sur
c'est ma boîte de prod. Ouais.
C'est toi qui est à l'origine de.
Ouais, c'est moi tout seul et c'est. Si tu veux, c'est très informel, quoi. Hein. C'est actuellement. Ça a été une espèce d'entreprise qui a déposé un bilan. Et c'est. Enfin, qui a fermé et c'est maintenant une association.
D'accord.
Donc, c'est moi et moi tout seul.
Tu avais créé quand au départ? Enfin,
je l'ai créé parce que quand j'ai fait mon premier film sur les toits en 2014, il fallait, comme tout film, avoir un nom de boîte de prod au générique. Mmh. Et bon, moi j'ai trouvé ce truc, les films Furax, parce que. J'ai tendance à être assez en colère comme garçon, d'une part, même si avec les années j'essaye un peu de me raffermir là-dessus, mais c'est surtout parce que ça m'intéressait graphiquement d'avoir une allitération en F en fait, utiliser pour des logos un truc avec un double F, voilà. Et donc c'est si tu veux, les films Furax, c'est personne n'est payé, il n'y a pas de collaborateur, c'est moi seul et il n'y a pas d'autre adresse que celle de mon appart, quoi. C'est une petite structure, c'est
indépendante.
C'est pas la start-up.
Mais c'est tout à fait dans l'esprit des films que tu fais,
bien
et
sûr.
Même des personnages qui sont au cœur de tes films.
Oui, bien sûr.
Les
ça a toujours été des Furax, que ce soit dans Sur les toits, La mort se mérite, Bungalow Session et là. This film should not exist, bah voilà, The Rebel, c'est quand même un rebelle, quoi. C'est quand même
Ben Waller et Serge
Livrozet.
Livrozet, pardon.
Même combat.
Ils sont tous les deux des rebelles, mais. Enfin, c'est le côté rebelle, mais moi j'ai senti quand même dans le nom rebelle, The Rebel, quelque chose d'ironique. Enfin, c'est pas du tout au premier degré, genre
non,
je suis un rebelle.
C'est ce qu'il explique dans le film, et ça n'est que beaucoup de second degré,
voilà,
les country teasers.
Bah, c'est dans l'esprit punk.
Voilà, et il y a donc on a eu cette conversation hier avec un spectateur à Kéla, parce que moi j'ai assisté au début de l'approche, c'est la première fois que je le passais en salle, et donc je voulais voir comment réagissait la copile des CP. J'avais des doutes, et j'ai vu une nana partir. Enfin, une dame partir pendant la projection, et je discutais après. Alors, je dis, je pense pas, c'est parce que c'était trop fort. Et il y a un mec qui m'a dit non, je pense que c'est à cause des paroles en fait. Parce que les paroles sont extrêmement provocatrices.
Oui,
et que, bon, voilà, c'est expliqué dans le film, il faut prendre un peu de recul, un certain second degré là-dedans, quoi. C'est-à-dire que quand Sid Vicious. Mettait des croix nazies, ça a choqué tout le monde.
Oui,
quand Pierre Desproges disait il y a un juif dans la salle, ça a choqué tout le monde. Et la dame, enfin ça a choqué tout le monde. Ça a choqué les vieilles conservatrices ou conservateurs anglais ou français. Et là, c'est la même chose. Quoi.
Ça choque différents types de conservateurs, j'ai l'impression.
Voilà, c'est ça.
C'est pas tous les mêmes conservateurs, c'est pas les mêmes conservatismes.
Non,
aujourd'hui.
Mais c'est quand même un conservatisme,
mais c'est,
si tu veux, de bonne aloi et gênant. Parce que moi, j'ai évolué avec des films militants, dans des milieux militants qu'il faut pas choquer. Il faut faire attention. Hein, et Ben Waller, s'il fait tout le contraire, mais par sens de la provocation, et c'est dommage que la dame soit pas restée jusqu'au bout du film, parce qu'il y a un moment où tout ça, c'est abordé, expliqué, quoi. C'est mis en rapport avec Jonathan Swift qui disait « Je pense que les pauvres devraient manger leurs enfants ». C'est pas Jonathan Swift qui dit « Je pense que les pauvres devraient manger leurs enfants », c'est une pique satiriste, quoi.
Oui.
Il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça, et Ben, il s'inscrit dans cette tradition.
Ouais, mais malheureusement, c'est pas forcément... c'est difficile pour certains... de comprendre l'ironie qu'il peut y avoir
dans
certains trucs.
Exactement.
Alors, j'ai pas envie, parce que je suis pas du tout moi là-dedans, dans le côté c'était mieux avant ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Donc, on entre dans. Que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, même si à mon niveau, je peux pas comparer avec il y a 20-25 ans, parce que j'y étais pas, mais voilà, je sais pas, je me demande si c'est pas un peu plus compliqué.
Je pense, je pense qu'on est dans un truc de plus en plus. De plus en plus policé, de plus en plus, comment dire, où il faut être dans le bon ton, le bon teint, etc. Et que tout ça, c'est très mauvais pour l'avenir de notre société. Parce que la force de l'ironie et de la provoque et du cynisme de Ben, c'est aussi qu'elle est extrêmement drôle. Et si les gens n'arrivent pas à rire... Si les gens n'arrivent pas à trouver ça drôle, on a affaire à des gens tristes, quoi, des gens qui savent plus rire, et c'est dramatique. On est dans une société qui va extrêmement mal. Si on n'a plus le rire comme échappatoire, on va se retrouver quand même sacrément déprimé, quoi. On l'est déjà, mais ça va pas faire baisser la consommation des anxiolytiques si on n'arrive plus à rigoler un bon coup des noirs, des homosexuels, de toutes les minorités possibles, quoi. Et c'est Voilà.
Bah, c'est marrant parce que.
C'est aussi de ça dont le film parle indirectement.
Oui, bah, moi j'ai senti tout, justement cet humour derrière les paroles, quoi. Je ne l'ai pas pris. Même si je ne connaissais pas du tout. Je connaissais vraiment rien en allant voir le film du groupe, en tout cas, je veux dire. Et du coup, bah, j'ai pris ça, je l'ai senti comme. Voilà, pas comme. Je ne l'ai pas pris au premier degré, quoi. Je disais, c'est marrant aussi parce qu'on n'est pas loin des. Je sais pas si c'est encore en ce moment là le procès des attentats de Charlie Hebdo, mais c'est aussi cet esprit-là, pas la même génération par contre. Mais bien sûr,
c'est complètement. Alors là, c'est l'esprit Harakiri première génération, pas le Charlie Hebdo pas le Charlie Hebdo du curé Val, Philippe Val des années 90-2000, mais le Harakiri Provo, effectivement, c'est ça quoi. Je veux dire, Ben, c'est tout à fait Harakiriesque les country teasers. C'est sans doute le groupe de rock le plus proche de l'esprit Harakiri de toute l'histoire du rock'n'roll, le plus ironique et le plus fandard en fait quoi. C'est ça qui en fait un groupe extraordinaire, qui sort du lot.
Peut-être reconnu OTH avec Euthanasie pour les rockers, OTH groupe montpelliérain culte, pour ne pas dire mythique, qui existait pendant 13 années et qui fait partie des groupes les plus importants de la scène, disons, alternative française, ou en tout cas punk, rock. Un groupe qui a commencé à la fin des années 70, mais qui n'a pu enregistrer son premier album qu'en 84, et c'est la date du morceau. C'est la date donc du morceau qu'on a entendu à l'instant, mais comme je disais, donc c'est un groupe qui a commencé sa carrière bien avant, donc à l'époque du punk. Et je trouvais ça intéressant, pour terminer cette première partie, cette première interview, de faire le lien donc entre deux scènes rock indépendantes de deux époques différentes, mais pas si lointaines, qui partagent l'esprit do it yourself et le refus de tout compromis, quitte, comme ce fut le cas pour OTH, à faire une croix sur un certain succès qui aurait pu être plus large, plus commercial. OTH avait d'ailleurs enregistré deux morceaux pour le label RCA avant de le quitter pour rester basé à Montpellier et aussi pour rester fidèle sans doute à certaines valeurs, à cet état d'esprit indépendant, à une certaine idée du rock aussi et du punk, une forme de liberté en quelque sorte. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire ce petit parallèle entre les deux, et puis je note aussi dans les textes d'OTH qu'il y a beaucoup d'humour et d'ironie, comme on peut le trouver d'une certaine façon, d'une façon différente chez les Country Teasers. Outre OTH à la fin, vous avez donc pu entendre au cours de l'interview certains morceaux des Country Teasers, Golden Apple sur l'album Destroy All Human Life paru en 99, Anytime Cowboy paru comme single en 95 sur le label Crypt Records, Points of View sur l'album The Empire Strikes Back, un des textes les plus provocateur de Ben Wallers avec des références à la Seconde Guerre mondiale, et enfin un extrait live de Country Roads, morceau qu'on trouve originellement sur l'album Back to the Future en 98. Enfin, je cite aussi le groupe That Bligoo que l'on a vaguement évoqué dans l'interview et qui fut très important pour Ben Wallers. C'est un groupe gallois qui chante en gallois. On change à présent de registre musical et de pays pour retrouver un artiste lui aussi inclassable et qui explore la musique électronique depuis son enfance, j'ai nommé Félix Koubin. C'est une sorte de savant fou, un peu burlesque, surréaliste et dadaïste à la fois, un enfant adulte ou un adulte encore enfant, proche dans le style et l'esprit de Stockhausen, Kraftwerk et d'un imaginaire délirant, de films sortis de films de science-fiction et de série Z. Un étrange personnage dont Marie Lozier, cinéaste habituée des portraits d'artistes comme avec Genesis P. Orridge pour The Ballad of Genesis and Lady J, a réussi parfaitement à capter l'essence et l'univers. La rencontre entre Marie Lozier et Félix Koubin donne non seulement naissance à une amitié, qui ressort particulièrement dans son documentaire, mais aussi justement donc à un moyen-métrage, Félix in Wonderland, faisant sauter les barrières entre docu et fiction, réel et imaginaire. Ce qui m'a donné envie de découvrir ce film, c'est d'abord une photo que j'ai découvert dans le programme d'un festival, représentant Félix affublé d'une chouette sur l'épaule. C'est cette image qui m'a intrigué dans un premier temps, et lorsque j'ai découvert le film, il était précédé d'un court-métrage également réalisé par Marie Lozier et qui s'appelle Which is Which, réalisé en collaboration avec Bertrand Mandico à partir de Rush, qui devait figurer au départ dans Félix in Wonderland, mais dont elle a fait donc un film à part entière, un film bonbon comme elle le dit, selon ses propres mots. Je vous propose donc d'écouter cette interview avec Marie Lozier. Je m'excuse par avance pour le son qui est un petit peu, en tout cas où il y a beaucoup d'écho dans cette interview, donc je m'en excuse par avance. Et on écoute tout de suite donc l'interview avec Marie Lozier. Il y a une séquence qui m'a particulièrement marqué dans ce film et touché, c'est celle où on découvre Félix à l'âge de 11 ans dans des images d'archives qui s'intègrent parfaitement d'ailleurs au reste. On peut y percevoir un talent déjà bien présent pour la musique, on le voit en effet avec un ami jouer devant un public plutôt à l'aise dans cet exercice, comme s'il était déjà dans son personnage futur. Mais ces images témoignent aussi d'un regard, un discours déjà très lucide, intelligent voire même brillant sur la musique, la façon dont il la conçoit pour le présent comme pour l'avenir. Alors bien sûr, j'ai voulu parler de cette séquence avec Marie Lozier. Tellement ça paraît dingue, je me suis demandé un moment si c'était pas une scène de fiction que t'aurais filmée pour faire croire que c'est comme une
fausse page d'archives. En fait, il a 11 ans et c'était la télé allemande qui partait partout en Allemagne et qui allait de ville en ville et qui filmait les choses assez spectaculaires de chaque ville, c'est-à-dire... Ou par exemple la foire aux vaches, comme les jeunes musiciens du début de la musique électronique. Et là, c'était Hambourg. Et donc, tu vois Félix à 11 ans quand même, avec son copain, te déplier une pensée sur le monde de la musique industrielle assez hallucinant. Ich möchte immer sehen, die Fernsehpropheten, ich möchte sie ständig sehen, die Fernsehpropheten, die uns weisen Rat und grünen Spinat erteilen. Dies ist keine Utopie, dies ist eine Strategie. Dies ist keine Utopie, dies ist eine Strategie. Dies ist eine Utopie, dies ist eine Strategie. Sa conception, les deux qui se disent un duo, mais individuel. Donc déjà, cette idée-là est complètement dingue.
Égocentrique.
Égocentrique, c'est complètement dingue. C'est en fait être un en deux et deux en un, quoi. C'est déjà une pensée à 11 ans qui me dépasse. Et quand tu les vois jouer, c'est assez dingue. Comment ils parlent de la musique.
Et leur vision, ce qu'ils ont envie, enfin, ce qu'ils disent sur le futur de la musique aussi. Sur ce qu'ils ont envie, la conscience qu'ils ont de ce qu'ils ont envie de créer, de faire. Et d'avoir comme influence aussi sur la musique.
Ah, les petits génies de 11 ans, quoi, c'est... Tous les films que j'ai faits sont des portraits. Et c'est vrai que c'est des portraits à partir de rencontres. Et ces rencontres ne sont pas juste des rencontres une fois, mais c'est des rencontres amicales qui deviennent d'abord une amitié et ensuite un film, en fait. Et souvent, c'est des personnes qui ont les mêmes impulsions, c'est-à-dire que le temps de l'amitié, le temps passé ensemble, est dans la création, de toute façon. Donc, il devient tout de suite un processus de travail. Et Félix, quand je l'ai rencontré, c'était à New York, parce qu'il fait la musique, il a fait la musique de plusieurs films d'une artiste que j'adore, qui fait des animations très punk, en 16 mm, qui s'appelle Martha Colburn. Et Félix a fait beaucoup de musique pour elle.
D'accord.
Et quand j'ai rencontré sa musique et lui, ça a été tellement naturel d'être dans le même... l'humour, le décalage. Je connais très bien Martin en plus, donc voilà. Et Félix a dit, je veux absolument... c'est pas quelqu'un qui se livre, c'est pas quelqu'un qui a accepté de faire un portrait avant, mais il a dit, si un jour on peut, j'aimerais travailler avec toi. Et puis en 2010, je suis allée montrer mon film La Ballade de Genesis et les DJ à la Cinémathèque de Hambourg. Et là, il y avait Félix avec tous ses copains. Et on a, il m'a emporté dans la nuit à me montrer les bars et les lieux où Genesis Peerage avait joué le DJ avec Throbbing Gristle. On a passé du temps et toute la nuit, voilà, on s'est vraiment connus comme ça à travers une sorte de errance musicale et cinéma. Et il m'a dit, le jour où tu reviens en Europe, on fait un film. Et le jour où je suis revenue en Europe, j'ai eu cette résidence à Berlin en 2013. Il était là, puis on a commencé à filmer, en fait, direct. D'accord. Au lieu de passer du temps à boire des cafés, on a bu des cafés en parlant, en créant. Puis tout de suite, Félix m'a embarqué dès qu'il y avait, tu vois, ce voyage en Slovaquie, où il avait eu une bourse pour... tester et détruire des micros pour faire une radiophonie sur la destruction de différents micros, ce qui est complètement absurde et génialissime d'avoir l'argent pour faire une radiophonie sur ça. Et donc, il m'a embarqué et c'est là qu'on a commencé aussi à faire des mises en scène de ce qu'il allait faire musicalement, en fait. Et ça a un peu provoqué et commencé le film comme ça, dans l'absurde, en Slovaquie, au milieu des champs, à détruire des micros.
C'est génial comme idée. Effectivement, tu utilises une idée. côté absurde et en même temps très poétique.
Très sérieuse en plus.
Très sérieuse.
C'est-à-dire qu'il croit à tout, hein, c'est-à-dire comme moi, c'est-à-dire que même si on dit on va chanter sous l'eau et on va mettre un micro qu'on va brûler avec de l'essence, c'est absurde quand on le dit, c'est absurde à faire, mais en même temps c'est très sérieux la recherche derrière, c'est très très sérieux, on le prend vraiment à cœur.
C'est comme un enfant qui est très sérieux dans le jeu en fait.
Complètement, et là tu as touché un point, c'est que ce que je pense qui nous réunit aussi, c'est qu'il y a la femme-enfant et l'homme-enfant qui se sont rencontrés et qui peuvent continuer à jouer.
C'est ça, parce qu'on sent que c'est vraiment, c'est pas à sens unique comme film. Tu vois, c'est vraiment un film à deux, d'une certaine façon, parce que c'est aussi ton ingénieur du son, parce qu'il est crédité en tant que tel aussi. Et je sais pas s'il n'est pas intervenu sur le montage son.
Absolument pas. En fait, la collaboration, elle s'est faite dans le sens que, il me dit, voilà, je fais un opéra, faut que tu viennes et que tu documentes. Oui. Donc, il y a des ponctuations de moments de création qui sont plus documentaires. Après, il y a les moments plus fictionnés qui sont comme des tableaux vivants, qui sont et des images que moi j'ai personnellement. Comme le hibou, le désir de le faire jouer avec des oiseaux, toutes ces choses-là dans la baignoire, ou alors dans le musée à machines, quand il fait tout ça, c'est moi qui l'ai embarqué dans ces tableaux, en fait. Et il a joué le jeu. Après, il y a aussi ce qui est chouette, c'est qu'il me dit, Marie, j'ai cette obsession sur tomber, sur les chutes.
Ah, oui.
Et donc ça, je l'ai imagé plutôt que d'en parler, d'où le fait que je l'ai filmé sur fond noir et qu'on le voit en train de tomber à répétition. L'idée, par exemple, de l'image où il s'opère sur lui-même et qu'il trouve une chanson, c'est un rêve cauchemar qu'il a eu lui. Et donc, je l'ai mis en scène avec mon propre imagerie, avec le cœur, par exemple, qui n'est pas dans son rêve. Hein. Oui. Mais c'est des mélanges de rêves qui sont à lui et des images qui sont mélangées avec moi, qui deviennent des images de film. Par contre, il n'a pas du tout intervenu. Il ne savait rien ni du montage sonore, ni du montage d'images. Et il est intervenu que à la fin, où on a mixé ensemble.
D'accord.
Et là... On lui demandait régulièrement, par exemple, Félix, j'ai besoin de 1 minute 20 mixes ça de l'opéra. Est-ce que tu peux faire ça? Ou alors, quand tu t'opères sur toi-même, j'ai besoin d'un son qui soit assez aigu pour un instrument qui ressemble à un champignon. Et pouf, il m'envoyait 3 différents samples et moi j'en choisissais un. Par contre, vraiment, le montage sonore, ça a été une totale surprise pour lui. Plus en détail aussi sur la fabrication, il y a un disque dur de composition et musicale et opératique et instrumentale dans lequel j'ai pioché, qui sont tous des compositions de lui pour le montage, et des interviews que j'ai faites avec lui qui sont plus des enregistrements où on marche ensemble et je lui pose des questions comme tu fais avec moi, et que je récupère au fur et à mesure des années des discussions, en fait, et puis des histoires. Et c'est ça qui est entremêlé dans le montage, plus parfois des petits enregistrements qui quand il parle à son propre téléphone et qu'il a une idée, que je lui pique pour l'entremêler à un montage sonore. Ouais. Voilà. Donc c'est tous ces mélanges-là, en fait,
ensemble. Moi, c'est ce que j'ai trouvé remarquable dans le film, c'est la façon dont tu arrives à mêler justement tous ces éléments de fiction, de...
documentation,
d'une certaine façon, mais c'est pas des interviews
classiques,
défilé de tête parlante comme on a souvent dans les documentaires, qui peut être intéressant aussi pour un reportage par exemple. Mais t'arrives à faire ça d'une manière en restant dans l'esprit du personnage que tu filmes, donc c'est-à-dire ce côté ludique et en même temps sérieux dans
passionné quoi, complètement habité par sa musique.
Et en gardant une cohérence aussi, parce que moi c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que tout est cohérent et pourtant il y a énormément de couches, d'éléments différents et même de... Ben, quand tu parles de fiction, des parties fiction, c'est à la fois très drôle, c'est de l'humour et en même temps il y a un côté onirique, un côté horrifique, par moments aussi donc très graphique. Qui me fait penser au travail de Bertrand Mandico, dont je sais que tu es...
Copine, ouais.
Et chez qui t'as joué, t'es apparu dans Clip & Cop.
Ouais.
Donc voilà, enfin, tous ces éléments-là qui se croisent et que t'arrives à justement à rendre cohérent. Mais ça a dû être très compliqué de choisir. Je sais pas combien d'heures
j'ai...
tu avais au final.
Beaucoup. Ouais. En fait, il y a beaucoup d'heures parce que... pour être vraiment honnête, comment ça a marché, c'est que j'avais aucune idée ni de l'histoire, ni de la forme du film. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de rush.
5 ans, oui.
Voilà. Donc, après, c'est tourné en 16, beaucoup. Donc, ça veut dire que tu n'en as pas des tonnes non plus. Je pourrais dire qu'il y en a peut-être deux fois la durée, donc c'est pas énorme. Hein. Par contre, en son, il y en a des kilomètres.
Ouais. Le 16 mm et les caméras que tu utilises qui est...
La Bolex en fait, donc c'est des petites bobines de 3 minutes. Et puis parfois la Scopic qui est une caméra japonaise. Mmh. Et en fait c'est comme la Bolex, donc c'est des bobines de 3 minutes mais il y a un petit moteur intégré. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligée de rembobiner toutes les 20 secondes. Mmh. Et ça peut donner des plans plus synchro, comme tu le vois dans le film, où justement j'ai pu faire des vrais moments musicaux, des vrais... Voilà.
Et c'est intéressant la contrainte que ça apporte, parce que la Bolex, en fait, on s'y est confronté à l'école où je suis, à l'ESSAF. Donc je vois tout à fait comment c'est et comment ça peut amener à penser... un film, une mise en scène, et surtout quand tu filmes quelque chose qui est lié à la musique aussi. Et j'aurais aimé que tu reviennes sur, par exemple, tu disais hier, après le film, que Félix avait cette capacité de s'adapter à ça, à cette contrainte, et de compter, 3 minutes pour notamment une séquence en surimpression, je crois. Enfin, j'aurais aimé que tu reviennes sur cet aspect-là.
Ouais, en fait, c'est ce qui est génial quand tu travailles avec un musicien complètement habité comme lui, c'est que lui, il a vraiment un métronome dans la tête. Donc, quand je tourne, il sait exactement quand on arrive à 20 secondes et que je dois rembobiner si c'est la Bolex, ou quand j'arrive à la fin des 3 minutes, enfin 2 minutes 58, avec la scopique. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que ça lui permet, lui, dans la performance, de chronométrer la durée de son geste ou de son intervention, et donc de faire quelque chose à la précision parfaite. Ce qui, pour moi, est quand même génial, parce qu'en général, c'est un peu bordélique et improvisé, comment je travaille. D'où la surimpression où j'ai filmé une fois Félix avec un miroir que j'ai recouvert de noir. Ce qui a permis, le noir c'est comme le fond vert dans la vidéo, le fond noir c'est ce qui disparaît, ce qui veut dire que quand j'ai rembobiné la péloche et que j'ai refilmé par dessus et qu'il a refait la même performance, il y a un moment où il y a un décalage pour que justement on croit que c'est la même image où il se regarde dans le miroir lui-même. Et en fait, il y a un décalage où une image, il fume une cigarette et l'autre, il range sa cigarette. Et ça, c'est juste tout compté dans sa tête à la seconde près et ça marche parfaitement, quoi.
Et puis ça rejoint du coup cette idée du personnage qui a à la fois cette folie enfantine et cette précision
allemande.
Oui, j'allais dire ça, très allemande. Ça peut sonner comme cliché, mais c'est.
Il le dit dès le début du film en fait, en rigolant de lui-même, où il a appris à jouer au piano à la perfection, à l'allemande. Et il rigole avec lui-même. Mais il y a quelque chose chez Félix qui est. ultra intense, ultra dissonant, mais à la perfection, c'est-à-dire à la seconde près.
Des films comme les tiens. Je sais qu'il y a HF Films, je crois. Ouais. Quel est le rôle de, justement, de HF Films et de la production, enfin comment on produit des films comme les tiens, par exemple?
Bah celui-là, j'ai vraiment commencé toute seule, c'est-à-dire comme je travaille à côté, parce que je ne gagne pas ma vie en tant que cinéaste du tout. Je ne suis pas intermittente du spectacle, donc ce que j'enseigne à côté. Et à chaque fois, je mets un peu d'argent de côté pour acheter de la péloche. Littéralement. Donc j'ai commencé comme ça avec Félix, c'est-à-dire à filmer beaucoup, mais sans avoir l'argent de le développer. Donc c'était en frigidaire pendant un bon moment, dont par exemple la scène de l'opéra qui est restée quand même 2 ans et demi sans que je sache s'il y avait des images ou pas.
C'était en 2016 ?
Ouais, ça me faisait totalement flipper. Et en fait, j'ai rencontré, donc, j'ai une amie Bandimage, donc c'est une association extraordinaire à Bourges, où beaucoup des scènes avec les animaux, avec la baignoire, exactement, la musique donc pour les écoles de musique électroacoustique de Bourges, l'usine avec toutes les machines, tout ça c'est filmé à Bourges, et c'est Isabelle Carlier, une amie très chère, qui m'a vraiment obtenu une bourse de la région centre sans que j'écrive quoi que ce soit, parce que j'ai aucune idée de ce que je fabrique. Il n'y a pas de dossier d'écriture.
Ouais. Tu ne fais pas de scénario avant le
aucun.
Film.
Je sais qu'il faut juste que j'archive des images, que j'archive des histoires, simplement juste passer du temps à récolter, à mettre en scène pour développer des idées de fiction, pour développer des idées de scénario qui se développent par le faire. Et c'est seulement au bout de 3 ans que je peux peut-être écrire un dossier en disant là, je veux aller là et je voudrais faire ça. D'accord. Ce qui s'est exactement passé parce que j'ai une petite bourse donc de Bandimage de Bourges qui m'a permis d'acheter de la bobine et de filmer quelques scènes, de faire venir Félix. Et par la suite, au bout de 3 ans, j'ai rencontré Etchier Film qui produit aussi Bertrand Mandicot, Yann Gonzalez pour un cours, voilà, qui a vu une image de l'hibou, ça, et qui m'a dit « mais j'adore tes films, en fait, je voudrais absolument le produire ».
Et qui ne connaissaient pas du tout ce que tu avais fait
Ils avaient vu La balade de Genesis, et ils adoraient ce film, et bien sûr, Etchier, c'est quand même un des grands producteurs qui permet cette liberté de faire des films sans scénario, parfois, mais avec une grande liberté créative, en fait, qui sont des films qui ne rentrent dans des cases.
Oui, parce que malheureusement, pour demander des financements, on passe souvent, même pour le documentaire, par des scénarios. Enfin, on demande en tout cas d'écrire un scénario.
Oui, ce qui est ridicule, c'est hyper dur, parce que, comment dire, tu vas écrire la vie de quelqu'un alors que tu ne sais pas du tout si tu vas pouvoir filmer de telle ou telle façon. Tu ne sais pas. Le futur, on ne peut pas le savoir. Même le lendemain, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est très compliqué d'écrire un documentaire.
Totalement.
On doit mentir, en fait, tout le temps.
Et la vie du film...
Mais justement, par rapport à ça, je voulais te dire ce qui est important aussi pour moi, et je pense pour pas mal de gens qui font des films aussi un peu comme ça, c'est d'abord de faire, donc d'être dans l'action, pour ensuite comprendre le sens du documentaire et de rechercher des bourses. Et Etchi, en fait, au bout de 3 ans, quand je les ai rencontrés, on a eu une bourse du CNC, ce qui m'a permis de vraiment développer les bobines, filmer certaines scènes de fiction avec beaucoup plus des moyens que je n'avais pas avant, pour certaines belles scènes comme la fin, de rembourser quelques voyages, et puis aussi de faire l'étalonnage et du mixage de façon extrêmement professionnelle, ce que je n'attendais pas à ce moment-là, et ce qui était très important pour Félix.
Et c'est malheureusement le cas aussi pour lui, puisque tu disais hier que, par exemple, donc les scènes qu'on voit, l'opéra qu'il a composé, a été enregistré, mais il n'est pas encore
Il n'est pas mixé,
non. Parce qu'il n'a pas l'argent pour le...
Bah ouais, il y a 48 pistes de cet opéra, ce qui est immense. Donc il faut en fait un certain savoir-faire, donc un ingénieur particulier, et des moyens qui ne sont pas dans les siens, dans ses cordes pour l'instant, pour mixer cet opéra.
Ce qui est dommage parce que...
Il est magnifique.
C'est ça, la minute 20 qui a été mixée, comme tu disais, elle est... Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu la musique sur celle, donc sur Yuri Gagarin, je crois. C'est ça, hein.
C'est tellement émouvant, avec sa fille qui joue du corde. C'est compliqué de la distribution, par exemple, de Félix. Pour l'instant, il n'y a aucun futur pour la distribution, rien. Parce que ce n'est pas un long métrage.
Le format
l'empêche. Et donc voilà, il n'y a aucune distribution, sauf qu'en 2021, il y aura un DVD. Donc voilà, ça c'est chouette. Sinon, il existe, oui, comme beaucoup de films dans les festivals. Après, les 2 autres longs métrages, ils ont été distribués, donc ça a été fantastique et chaotique à la fois, parce que c'est des docus, donc c'est compliqué, c'est pas commercial. Mais bon, on se bat tous pour essayer de faire qu'il existe dans des salles, puisqu'il a été désiré et conçu pour le cinéma à partager ensemble dans une salle noire, et pas pour être en ligne.
Ouais. Et je confirme que c'est un film à découvrir absolument en salle, parce qu'en plus avec la musique, c'est
vraiment quelque chose, t'as envie d'être
pensé pour ça.
Complètement, ouais, c'est un concert et un film.
Merci beaucoup.
Merci à toi, c'était super.
Quand tu arrives,
J'avais donc envie de finir cette émission en partageant avec vous cette version live, malgré le son de qualité assez pauvre. Cette version que je trouve magnifique, donc avec ce côté hanté crépusculaire, encore plus mélancolique que la version de l'album. Cette version donc de ce blues de robot signé Kraftwerk et qui s'appelle Computer Lieb, mieux connu sous son titre international Computer Love. Ceci dit, malgré la piètre qualité de ce son un peu chancelant, que l'on doit sans doute du fait que ce soit numérisé à partir d'une vieille cassette audio, d'après l'impression que ça me donne en tout cas, ça confère à mon sens une sorte d'aura au morceau qui renforce donc l'aspect mélancolique et très touchant, je trouve, étrangement humain de cette chanson. Le chant de Ralph Hütter, qui est assez bref, avec très peu de paroles, comme la plupart des morceaux du groupe allemand, ce chant donc, sa voix assez mal assurée, timide, mais aussi, c'est aussi ça qui justement, je trouve, qui confère ce côté d'autant plus touchant au morceau. Et puis voilà, j'aime beaucoup cette interprétation très minimaliste, je crois encore plus minimaliste que la version de l'album, et aussi ce côté très quasi intimiste en fait de ce live. Et du coup voilà, c'est assez, ça donne une impression justement très quelque chose de très humain pour un groupe qui a plutôt une image de groupe assez froid et robotique. C'est une image qui est réelle, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont construite. Mais justement, je trouve que c'est intéressant chez Kraftwerk, parce qu'il y a ce côté-là, et en même temps un aspect, je trouve qu'ils ont réussi à faire sonner la musique électronique de façon justement assez humaine après tout, pour paraphraser un titre d'album. En tout cas, c'est certainement ma chanson préférée de Kraftwerk, elle date de 81, c'est une chanson que je trouve assez visionnaire et qui parle donc globalement d'un amour, d'amour virtuel finalement, un peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui ou dans certaines séries ou films de science-fiction. Alors pour finir, je vous donne les musiques qu'on a entendues dans l'interview de Marie Lozier à propos de Félix Goubine. Et je vous encourage par la même occasion à regarder le film de Marie Lozier. Donc on a écouté Fernseh Propheten sur l'album Teenage Tapes, qui rassemble donc, comme son nom l'indique, des musiques composées dans l'adolescence et même avant l'adolescence de l'auteur. Big Bug Attack, film, musique du film d'animation éponyme, réalisé par Martha Colburn, dont Marie parlait au début de l'interview et qui me fait penser d'ailleurs au film de Frank Zappa, à certains films d'animation que Frank Zappa avait réalisés. Et Frank Zappa, c'est un artiste d'ailleurs qu'on peut rapprocher quelque part de l'univers de Félix Goubine. On a écouté aussi Morgan Rout sur l'album Film Music en 98 et Uren sur l'album Takt der Arbeit. Et puis il y avait aussi, à la toute fin, un extrait de l'opéra Falling Steel, opéra sur lequel Félix Goubine travaille dans le... Enfin, on le voit travailler sur cet opéra dans le film documentaire. C'est ce fameux opéra dont on parle à la toute fin de l'interview et qui n'a pas encore bénéficié d'un mixage faute de moyens financiers, malheureusement. Donc voilà, c'est une discographie, une œuvre assez très riche et très diverse, très dense. Donc je peux que vous encourager à découvrir son œuvre. C'était assez difficile de choisir aussi peu de morceaux pour illustrer cette interview. Mais voilà, donc j'espère que cette interview vous a plu, vous a intéressé. Je remercie donc Marie Lozier pour son film, pour son film très touchant que vous pouvez trouver d'ailleurs en DVD. Merci aussi bien sûr à Nicolas Drolk. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus et à bientôt pour de nouvelles pistes. To red.